plus près de vous.
Plus près de vous.
Plus près de vous.
Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice, des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réunis à la même enseigne. Plus près de vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien.
C'est la vie au quotidien.
Bonjour à vous, ravi de vous retrouver, Sbah al Khair, bienvenue dans Plus près de vous, le dernier numéro avant l'été. Nous rechargerons nos batteries pour mieux vous retrouver dès la rentrée, ça quand je parle du magazine. Hein. Évidemment, nous on est encore là avec vous pendant tout l'été. En tout cas, Hakim Ben Moussa et moi-même, Badia Ahdad, on a été ravis d'être avec vous tout le long de la saison, de vous retrouver. C'était bien de prendre avec vous ce petit train du quotidien pour parler, pour discuter, pour essayer surtout d'améliorer notre quotidien, le quotidien des citoyens. Ça nous fait toujours plaisir, 10h, 11h, un moment agréable avec vous, chers auditeurs. On a fait ce qu'on a pu avec les moyens que nous avons pu avoir. C'est vrai que c'était une année particulière parce que le cœur n'y était pas. Nos cœurs étaient avec la Palestine. C'est vrai, hein, il y avait comme pas trop de morale, mais on essayait d'assurer le direct pour essayer de vous proposer en tout cas des thèmes qui, j'espère, vous en parler. Ce matin, alors ce mardi 11 juin 2024, nous allons avoir M. Hassan Nour de l'Association des consommateurs pour donner un peu quelques conseils, pour parler un peu du prix du mouton, pour parler un peu comment, après la cérémonie, hein, donc il y a la prière et après on va aller égorger le mouton, comment les choses doivent se faire. Et nous aurons avec nous par téléphone notre vétérinaire préféré, le docteur Salim Kebeb. Il y aura également la chronique de Hafida Hamouche, comme chaque dimanche et mardi, voilà, aujourd'hui c'est la dernière de la saison. En tout cas, appelez-nous, dites-nous, faites-nous des critiques, dites-nous des gentillesses, nous sommes là à votre service. La radio algérienne, la chaîne 3, c'est une radio de proximité qui a toujours le plaisir de faire plaisir en premier lieu à vous, chères auditrices et auditeurs. Et on débute notre programme musical aujourd'hui. Hakim, il va nous faire plaisir, hein. En tout cas, le programme va vous faire plaisir, je suis sûr. On va démarrer avec un beau duo, hein, Mr. Tiff avec Soleil Levant. Évidemment, la Palestine, toujours au cœur de tous les Algériens et évidemment au cours de tout le monde. Hein. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment en France, l'extrême droite qui est en train de monter. C'est bien d'être du bon côté et il y a des gens qui savent être du bon côté. Et donc là, ce duo, Mr. Tiff avec Soleil Levant, la Palestine fait qalbhom comme nous.
Listen, so I don't mind mixing my business and pleasure, cause me and my woman make money together. Mediterranean, I see the sweater, she beat down more, but I need to do better, cause I'm only half of the man I could be. The process is scary to me, the lies, I look for that shit in my sleep. You know I'm good for it, cause le pays de mon enfance m'a appris l'humilité. L'Amérique m'a presque pris ma dignité, maman promis j'ai qu'une seule affinité. On est tous là grâce à des immigrés, chef of force, ma wahak, ou fuck it, we not leave. Hey, they just tell me I'm dreaming. They thought I'd be in and out in the season. Now I'm on top of the world for a reason. You know that I don't wanna be great if I'm all alone. So I'm on my mind. Come back to the
city that raised me, but mama lied. Cause I kill a man to see you smile, so it's on me. C'est notre amour risque de pas passer l'hiver. J'ai pas fait exprès, ça me hérite. J'ai lui fait de mes phallostaines. J'passe mes journées au studio dans Paris, mais pas celui des Champs-Élysées. Quand la chance avait déserté, mais je l'ai coursé jusqu'à l'infini. Souvent je disais ne m'attends pas, y'a des blèmes mais ça ne m'atteint pas. Rebeu, faut que ton cœur je l'ai pris dans son. Que je sens, je ne t'ai jamais promis l'anneau. Et j'taffe à pour un minimum. Ham, ça fait une erreur. Vu que le monde oublie les nôtres, on sera nous-mêmes les toits dans le ciel. Jim Haley, you know.
I don't wanna be great if I'm alone, so I'm on my mind. Come back to the city that raised me, but mama lied. Cause I kill a man to see you smile, so it's on me. It's on me.
Samhini, forgive me, c'était sur Admassi, c'est tout à l'heure sur Admassi. Je regardais et tout de suite vous avez enlevé. Saint-Levant avec Mr. T, voilà deux voix, deux stars qui ont la Palestine au cœur et qui vont monter, hein, je suis sûre qu'ils vont nous préparer quelques autres albums. Il est 10h11 minutes.
Plus près de vous. Besoin de comprendre, de savoir. Justice. C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier.
Bonjour Hafed Ahmouch.
Bonjour Bédéa, bonjour à tous.
On parle des nouvelles dispositions du permis de conduire avec vous ce matin, Hafeda. Un nouveau système d'examen pour l'obtention du permis de conduire qui sera numérisé, sera lancé avant la fin de l'année en cours. Mais c'est quoi justement ce nouveau système? De quoi s'agit-il exactement, Hafeda?
Alors ce projet vise en fait à améliorer le niveau de formation et à prouver les compétences nécessaires pour obtenir le permis de conduire. Ce nouveau système devrait fournir également aux candidats les connaissances relatives à différents domaines, des informations, des connaissances qui seront utiles pour les futurs conducteurs. Ce nouveau système disposera d'une banque de questions sur le code de la route. Les candidats trouveront également des informations notamment sur les premiers secours, le respect de la priorité à droite, la signalisation routière et même la mécanique. Donc ce nouveau système de formation BDA des conducteurs totalement numérisé permettra de suivre tout le processus de formation au niveau des auto-écoles avec une obligation de suivre la durée légale de formation pour le côté théorique. Désormais, une fois le nouveau système d'examen lancé, les auto-écoles ne s'occuperont que de la formation alors que l'examen officiel pour l'obtention du permis de conduire, il se fera dans les centres relevant de la Délégation nationale à la sécurité routière. Le nouveau système de formation entrera donc à la fin de l'année en cours, vous l'avez dit, au niveau de 6 wilayas pilotes qui seront sélectionnés. Je vous le disais, les auto-écoles n'auront pas leur mot à dire ni de lien direct avec les centres d'examen. Elles seront informées et même formées à ce nouveau système de formation. Un arrêté ministériel sera publié prochainement pour définir le programme de formation pour l'obtention de permis de conduire BDA.
Plus de 900 personnes ont trouvé la mort au cours du premier trimestre 2024 sur nos routes, un bilan qui révèle une moyenne de 9 décès par jour, des chiffres qui font froid dans le dos, d'où l'urgence aujourd'hui de remettre de l'ordre dans la formation des futurs conducteurs. Hafeda.
Absolument. Donc, chaque année, chaque semaine et chaque jour, malheureusement, amène son lot de blessés et de morts sur nos routes. L'année dernière, en 2023, les accidents de la route ont fait 33 995 blessés et 3 628 morts. Une tendance meurtrière qui s'est poursuivie les premiers mois de l'année en cours. Et devant cette hécatombe, les autorités ont décidé de durcir encore plus les règles de conditions d'obtention du permis de conduire et faciliter donc celle de son retrait. Et le réajustement ou ces nouvelles conditions dans la formation des futurs conducteurs fuit suite aux statistiques qui démontrent que 20% des conducteurs impliqués dans des accidents de la route sont titulaires d'un permis de conduire probatoire de moins de 2 ans contre 50% qui possèdent un permis de moins de 5 années. Cette nouvelle mesure vise en fait à instaurer une plus grande rigueur dans l'attribution du permis de conduire au vu des nombreux dépassements et autres passe-droits constatés. Il faut savoir que le nouveau système d'examen des conducteurs se fera via le système multimédia avec un ordinateur qui posera les questions aux candidats sans aucune intervention des examinateurs et c'est donc la machine seule qui notera le candidat, une manière d'atténuer les fraudes constatées dans l'attribution complaisante du permis de conduire.
Merci Hafeda Hamouche et puis bonne fin de saison, c'est mardi, on vous retrouvera très prochainement sur les ondes de Radio Alger.
Avec grand plaisir Bédéa.
Merci à vous.
Plus près de vous, c'est la vie au quotidien.
Besoin de comprendre, de savoir.
Plus près de vous.
C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier.
Il est tout juste 10h15, nous sommes le mardi 11 juin, c'est toujours le bac, hein. On souhaite beaucoup de courage à ceux qui sont encore en train de potasser ce matin sur leur copie. Et là tout de suite on va parler de l'Eid al-Kbir, hein. C'est dimanche, lundi, mardi. Alors est-ce que vous avez acheté le mouton? Est-ce que vous vous organisez pour aller acheter juste de la viande au niveau de votre boucher? En tout cas comment ça s'organise? Dites-le nous au standard d'Alger chaîne 3. Mais tout de suite on prend par téléphone notre invité, notre docteur préféré vétérinaire, Docteur Salim Kebeb, bonjour, merci d'être en direct avec nous.
Bonjour Badia.
Merci. Bonjour.
Badia. Comment alors à tous les auditeurs de la chaîne 3 et à votre invité.
Merci beaucoup. Alors dites-nous monsieur Salim Kebeb, cette année c'est un petit peu on va essayer de pouvoir un petit peu comprendre pourquoi quand même le mouton coûte aussi cher. Première question. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens n'ont pas acheté. Hein. J'ai autour de nous, le voisinage ou les gens, on voit de moins en moins là. Peut-être qu'ils ne les ont pas encore fait.
Oui, il y a cette cherté, à mon avis.
Qui a une explication.
Il y a une explication, c'est surtout par rapport à l'effectif de notre cheptel qui a quand même régressé ces dernières années. Donc il y a plusieurs facteurs, je pourrais citer, il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs politiques, historiques, il y a des facteurs sociaux et bien évidemment les facteurs techniques.
Oui, ça veut dire notre cheptel est autour de combien en tant que vétérinaire, monsieur Kebeb?
D'ailleurs, il y a eu les statistiques dernièrement, après avoir fait le recensement du cheptel. Oui. D'ailleurs, même le président de la République en a parlé. C'est autour de 18 millions de têtes.
Tout à fait. Moi, j'avais trouvé autour de 19 millions de têtes.
Oui, 18 à 19 millions de têtes.
Okay.
Mais c'est pas le chiffre qu'on nous avançait auparavant, qui était de l'ordre de 28 jusqu'à 30 millions. C'était des statistiques un peu, erronées.
Erronées. Ok.
Oui. Et maintenant, avec l'actuel recensement, je pense qu'on aura les vraies statistiques.
D'accord. Et donc, comme la population est en augmentation, donc le cheptel ne suffit pas. Donc l'offre et la demande, c'est ce qui fait que le.
Tout à fait. J'ai dit qu'il y a des facteurs sociaux, historiques, et il y a des facteurs techniques. Vous savez, avant, l'élevage ovin était basé, même avant l'indépendance, durant la période coloniale, il était basé sur le nomadisme, c'est-à-dire c'était les nomades qui détenaient presque 70% de notre cheptel ovin, qui était basé sur beaucoup plus, il y avait la transhumance d'été et d'hiver, qu'on appelle la zib et la chaba. Mais à l'époque, le cheptel était de l'ordre de 12 millions, 12 à 15 millions jusqu'aux années 80. Et notre population était, disons, ne dépassait pas les 20 millions. Donc c'était un peu proportionnel. Ce n'est plus le cas actuellement de nos jours.
Oui.
Actuellement, on est à 45 millions, on est à 45 millions d'habitants pour 19 millions de têtes.
Mmh.
Et dans les 19 millions, il faut pas oublier, dans ces 19 millions de têtes, 50%, je dirais, à hauteur de 50%, c'est des femelles reproductrices.
Okay.
C'est des femelles, c'est-à-dire, elles sont destinées à la reproduction. Donc, notre cheptel, c'est-à-dire, qui est destiné à l'abattage ou à la consommation, si on peut dire, il dépasse pas les 9 millions de têtes. Comment Bédia, voulez-vous que 9 millions de têtes suffisent pour la période, c'est-à-dire les
deux périodes importantes, vous avez l'Aïd el-Kbir et les mariages et
le Ramadan,
tout à fait.
Et pour la consommation quotidienne le reste de l'année. Donc 9 millions, c'est juste limite.
D'accord. Donc c'est cette explication que nous avons. Mais est-ce qu'on on fait l'abattage plus pour les femelles ou les mâles pour l'Aïd?
Oui, c'est les mâles.
OK.
Vous savez qu'il y a actuellement une loi, c'est-à-dire l'abattage des femelles reproductrices et génitrices, à savoir les brebis, les agnelles, les vaches, les génisses. Bon, ce phénomène-là, il a pris de l'ampleur ces dix dernières années.
Oui.
Et d'ailleurs, l'État vient de sévir sur ce phénomène criminel. Je dirais que c'est un phénomène criminel par l'adoption d'une loi criminalisant l'abattage des femelles.
D'accord, c'est bien.
Il y a même une peine d'emprisonnement de 5 ans pour les personnes impliquées.
Ok, ça c'est bien de le rappeler.
Et là, permettez-moi, je ne pense pas que ça soit l'œuvre des éleveurs, c'est-à-dire les vrais éleveurs authentiques. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec la profession, je dirais une profession, pas une activité. C'est des gens, c'est des non-professionnels qui font ce crime-là. Parce que les éleveurs, est-ce qu'on a vu déjà un industriel casser sa propre machine?
Oui, il ne peut pas, bien sûr, c'est son gagne-pain. Oui.
La femelle, c'est la machine de production, si on peut dire.
Tout à fait.
C'est ça.
Dites-moi, Monsieur Salim Kibeb, donc vous êtes vétérinaire, on pourrait peut-être, donc là, vous avez parlé un peu du prix, de la difficulté. On ne sait pas, d'ailleurs, combien de moutons ont été vendus, si beaucoup de familles algériennes ont pu se permettre de jeter. Donc ça part de 60 000 dinars jusqu'à 120 000, je pense.
Oui, c'est ce que je suis.
La fourchette, hein.
Oui, oui. On est en train de faire des visites au niveau des marchés à bestiaux. Donc, la fourchette, c'est entre 50 000 jusqu'à 150 000 dinars.
Oui.
Pour
et
les
celui de 50 000 dinars, c'est un tout petit mouton.
Oui, oui, c'est un agneau. C'est un agneau.
Voilà. Bon, certains vous disent, on va le comparer à un chat, tellement qu'il est petit. Notre cher technicien, Adlène. Dites-moi.
J'espère que l'année prochaine, il y a des dispositions qui sont prises par l'État.
Oui.
D'ailleurs, même, j'ai écouté le président de la République, il donne un intérêt particulier aux fermes pilotes. Ça, c'est la première fois qu'on entend ça. Il y a, c'est-à-dire, je pense, il y a des mesures qui sont prises pour justement l'élevage. Parce que quand on dit, nous, on dépend du département de l'agriculture.
Oui.
Mais dans l'agriculture, il y a deux grandes sphères, c'est la sphère végétale et la sphère animale. On est plus d'importance, c'est-à-dire à l'élevage, parce que l'Algérie, elle est connue traditionnellement, historiquement, comme étant un pays d'élevage d'ovins, le mouton.
Oui.
Et le mouton, il y a plusieurs experts, moi j'ai assisté à de nombreuses conférences qui disaient, même des étrangers, ils disaient à l'époque, ça fait 20 ans de cela, qui disaient que le mouton est la future force économique de l'Algérie.
Ah bon, carrément. Okay.
Oui, vous savez, je vais vous donner juste l'Australie qui est le premier, qui est leader en production ovine.
Oui.
Vous savez, longtemps, le slogan économique de l'Australie était Australian Cheap Country.
Oui.
C'est-à-dire l'Australie, pays du mouton.
Oui.
Alors que nous, on est, plus connu comme étant le pays du mouton. Et nos races, ils sont en train d'être essaimés un peu partout dans le monde, même en Amérique latine.
Et quelle est la ça reste toujours la région de Biskra, Boussaada, où on peut trouver un bon mouton.
Oui.
Salim Kebab.
Oui, il y a les wilayas sépiques qui sont connues. Ça va de l'ouest jusqu'en est. Naama, Bayot, Tiert, Lhouat, Djilfa. Et sans oublier Djilfa aussi, Msila. Sans oublier, il y a une wilaya qu'on oublie, alors que c'est un fief d'élevage ovin, on l'oublie souvent, on n'en parle pas beaucoup.
Oui.
C'est la wilaya de Tébessa.
D'accord.
Le sud de Tébessa. Il y a même une race.
Oui.
Je ne sais pas si vous les avez vus sur les réseaux sociaux.
Oui.
Il y a même une race qu'on appelle les moutons géants.
D'accord, des moutons géants, oui, ça fait peur quand on voit. Alors, oui. Selim Kibeb, restez avec nous. Je rappelle que vous êtes vétérinaire au niveau de la commune de Dalaria. Nous avons notre deuxième invité qui vient d'arriver, monsieur Hassan Mourou. Bonjour, merci d'être en direct avec nous.
Bonjour à vous. Oui, bonjour.
On vous a un petit peu bousculé aujourd'hui dans votre programme.
C'est toujours un plaisir d'être
là. Merci. Dites-nous, monsieur Hassan Mourou. Donc, c'est première question, on parle de l'Eid al-Kbir. Quel est votre constat, hein, association des consommateurs? On n'a pas beaucoup acheté le mouton?
Pas vraiment. Peut-être ça va se faire ces trois derniers jours.
Voilà, c'est ce que je disais.
Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui le font. D'abord, c'est parce que c'est trop cher cette année. Mmh. On en est vraiment un peu, pas déçu seulement, mais frustré, parce que on s'attendait à ce que cette année, qu'il y ait une meilleure production, vu toutes les bonnes volontés politiques et toutes les dispositions prises par les services de l'État. Mais malheureusement, je crois que les producteurs n'ont pas suivi.
D'ailleurs, on vous dit que vous confirmez ou pas, Monsieur Hassan Nouel, Monsieur Selim Kebeb, que c'est le mouton le plus cher vendu dans le monde, en Algérie.
Absolument, et ça, c'est pas normal, parce que nous avons quand même un potentiel de quoi faire produire et pour nous et pour plusieurs autres pays.
Ouais.
Nous avons de très très bonnes races, donc ils sont très reproductifs.
Bah, c'est ce que disait tout à fait.
Nous avons des possibilités de produire de l'aliment, donc il faudrait pas se leurrer, hein. Donc nous avons tout ce qu'il faut. Donc commencer à produire autre chose. Comme on a pu quand même produire des tomates à longueur d'année à bon
tout
prix,
à fait.
On aurait pu quand même produire de l'aliment de bétail. Mais je crois que il y a eu d'abord des décisions qui ont été prises en retard, et puis aussi il y a ce problème du recensement
qui a été fait
mais qui n'est pas encore mis en œuvre pour qu'il y ait des procédures et des plans et de planification, parce que si vous vous souvenez on parlait toujours de cartes agricoles et de planification, mais il fallait d'abord qu'il y ait un recensement. Il faut d'abord recenser, connaître nos producteurs, connaître qu'est-ce qu'on a comme cheptel, les races, comment elles vont se reproduire, et prévoir donc tout un plan de production, pour ne pas dire...
En tout cas, il y a une décision des pouvoirs publics doit se faire. On est arrivé à 19 millions de têtes.
De toute manière, ce qui est en train de se faire, nous, en tant qu'association, c'est vrai que parfois on est dans la critique positive, mais quand on voit qu'il y a des choses qui se font, on est un peu rassuré pour l'avenir.
Oui.
Donc, je ne dirais pas que c'est pour 2025, mais ce qui est certain, ce qu'on a vu avec nos experts, en 2026, on serait beaucoup plus à l'aise.
D'accord. Donc il va y avoir
quand même un temps comme ça pour je dirais, professionnaliser le métier. Parce que jusqu'à ce jour, ce domaine de l'élevage, il est artisanal, c'est des simples bergers livrés à
vous. Vous pouvez intervenir, monsieur Selim Kebeb, en tant que vétérinaire.
Oui.
Qui sont livrés à eux-mêmes, donc ils produisent selon leur capacité. Et puis il y a des réseaux de distribution, donc c'est de l'informel carrément. Donc il n'y a aucune traçabilité, les gens font ce qu'ils veulent. Et comme il y a aussi cet engouement de l'aide, les Algériens aiment bien faire le sacrifice.
C'est important pour les familles algériennes.
Oui, vous avez dit que nous avons le mouton le plus cher, mais nous avons la population qui fait le plus ce sacrifice.
Dans les autres pays arabes, on fait de moins en moins de sacrifices.
Pour nous, c'est sacré, c'est pas seulement religieux, c'est familial, c'est social, c'est traditionnel. Même il y a des gens qui ne sont pas vraiment portés sur la religion, mais qui font l'aide. C'est ancré. Et d'ailleurs, nous, en tant qu'association, entre parenthèses, on voudrait défendre ça. Donc, on est contre les gens qui sont en train d'appeler au boycott. Je le dis tout franchement sur la radio nationale.
Oui, mais monsieur Hassan Nour, si vous n'avez pas les moyens.
Non.
C'est 70 000 à 60 000.
Non, quand je parle de boycott, quand c'est la personne ne voudrait pas le faire. Mais quand elle ne pourrait pas le faire, ça se comprend. On avait toujours dit, même nous, en tant qu'association, pour remettre les choses dans leur endroit, c'est que dans notre religion, il faudrait qu'on le comprenne très bien. Dans notre religion, quand il y a quelque chose qui est ordonné, mais on ordonne de faire le sacrifice, c'est la sunna, mais en même temps, on ordonne, c'est aussi un ordre, de ne pas faire quand on n'a pas les moyens. Donc il faudrait prendre les deux en même temps. Il faudrait, même quand on se situe dans la catégorie de ceux qui ne peuvent pas faire le sacrifice, je dirais qu'on a plus de ajal. Parce que pourquoi ? On a voulu faire, on n'a pas pu. Et on n'est pas bien parce qu'on n'a pas pu le faire. Donc tout ça, c'est quand même... Donc il ne faudrait pas être trop triste quand on ne le fait pas, mais chez le bon Dieu, du moins parce que c'est un acte qui est religieux, c'est accepté et ça a plus de valeur. Parce qu'on a voulu le faire, on n'a pas pu.
Bien sûr, ni elle était là.
Non, mais je vous dirais, quelqu'un qui a de l'argent et qui peut acheter, il ne peut pas être aussi bien récompensé que celui qui a voulu le faire et qui n'a pas d'argent pour le faire.
Et surtout un salarié, j'imagine que c'est...
C'est comme le ramadan. Oui. Le ramadan, on est ordonné de jeûner, mais on est aussi ordonné de ne pas jeûner quand on ne peut pas. C'est la même chose. Mais les gens qui disent, moi je peux acheter, mais par principe je n'achète pas, non, ça ne va pas dans le bon sens notre religion.
Mais on a remarqué qu'on est mardi 11 juin, on n'en a pas beaucoup vu autour de nous, les voisins, les familles. Monsieur, est-ce que vous voulez réagir par rapport aux propos, monsieur Salim Kebeb?
Oui, d'abord, je salue monsieur Mnawar. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit il faut professionnaliser, c'est-à-dire nos modes d'élevage, parce que tout à l'heure, je parlais de l'aspect technique. C'est l'aspect technique. Oui. Il a aggravé le déclin du cheptel romain. Oui. Vous savez, Bédia, que le mode d'élevage qui est suivi chez nous, je dirais depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, il est basé à hauteur de 80% sur le mode extensif, disons à semi-extensif. Le mode, il était, j'ai dit tout à l'heure que notre cheptel ovin, depuis la période coloniale, même après, il était détenu à hauteur de 80% par les nomades. C'est des systèmes qui sont dépassés. Ce mode ne peut plus convenir à nos temps actuels. C'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup de spécialistes, beaucoup d'experts qui le disent. Il est temps de développer le mode d'élevage intensif.
Oui, mais alors intensif, on n'a pas la qualité, je sais pas.
J'y arrive.
Oui, monsieur Salim Kebeb, vétérinaire.
Le mode intensif, il est basé sur les technologies d'élevage nouvelles. C'est vrai qu'on n'a pas, vous savez, le mode extensif, c'est un mode d'élevage économe qui n'aspire ni à une forte productivité par animal, ni par ailleurs par l'unité de surface, c'est-à-dire de parcours typique. Ce mode-là, le mode extensif, il s'applique au système d'élevage à faible chargement. Il priorise le couvert floristique pâturier, c'est-à-dire où on trouve les plantes telles que l'armoise, le chien, le rhum. Mais là, c'est vrai ce que vous venez de dire, l'élevage intensif. On va peut-être perdre le goût, mais en même temps, l'élevage intensif, il y aura la production bouchère de masse.
Oui.
À ce moment-là, on aura deux types de production.
Oui.
Ça, c'est les spécialistes qui le disent. On va augmenter, c'est-à-dire les productions en viande ovine, avec, c'est-à-dire toutes les franges de la société auront accès à la viande ovine, accès, c'est-à-dire à prix, c'est-à-dire à n'importe quel moment. Et pour ce qui est de la production du système, il faut préserver.
C'est-à-dire on doit préserver un peu le bio
Tout à fait. Le système extensif, j'y arrive, Nadia. Le système extensif, il faut le préserver. Parce que le système extensif où il y a la transhumance, vous savez, c'est un mode social. Il est même, dans certains pays, en France, il est protégé par une loi. La transhumance, elle est protégée.
Très juste.
C'est tout un mode, c'est toutes des pratiques sociales, socioculturelles et tout ça. Et là, alors là, la production de l'extensif ou du semi-extensif, elle sera dirigée vers le label.
Oui.
C'est-à-dire vers le label, on aura deux types de production.
Donc intensif, celui qui a les moyens de se permettre, il achètera le mouton labellisé.
On va payer plus. On aura. Moi, je peux à ce moment-là, je peux manger de la viande deux fois par semaine, au moins deux fois par semaine, et une fois, disons, une fois par mois. Lorsque je veux avoir le goût, là, je vais payer un peu plus.
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Hassan Nouar? Attendez, M. Salim Kebeb.
Je suis sûr que notre ami vétérinaire va être d'accord avec ce que je vais dire. D'abord, on va chercher des problèmes. Pourquoi on en est là? Pourquoi après pratiquement maintenant plus de 60 ans d'indépendance, nous souffrons quand même de
oui, de cette, c'est la population qui est en augmentation, M. Hassan Nouar.
Justement, je vais dire, il y a ça. Mais bon, la population est en augmentation, on aurait pu aussi augmenter la population, notre cheptel. Mais le problème, c'est quoi? C'est que d'abord, nous avons une mauvaise culture de consommation. Nous consommons beaucoup de...
Nous essayons, association des consommateurs, de changer un peu la culture de consommation.
Mais d'abord, dans nos études, on fait d'abord un constat, un état des lieux, pour savoir où est-ce qu'on doit traiter. Donc, notre mode de consommation, où on consomme beaucoup d'ovins en Algérie, malheureusement. D'abord, ce n'est pas bon pour la santé. Et puis, notre mouton, il est sacré chez nous. Donc, mm-hmm. l'Aïd, on aime sacrifier le mouton. Quand on est dans le mariage, c'est mm-hmm. le mouton. Mm-hmm. Donc,
Non,
c'est
noir.
Si.
Non, c'est quand on fait la chasse.
Écoutez,
en Kabylie, chez vous.
Chez nous, quand on va demander la main d'une femme, on lui prend un mouton.
Vous prenez un mouton. Eh bien, dis donc.
Absolument. En plus, bien décoré, avec des rubans et tout.
Non, moi, je sais que c'est quand on fait la chasse, il y a le mouton.
Ah, si, non, mais la chasse, c'est maintenant, on fait avec le bovin. Maintenant, les gens sont dirigés vers le bovin. C'est plus simple, c'est plus facile, mais le geste là d'aller demander une fille en mariage, c'est avec un mouton. Mmh. Quand il y a un hajj qui revient du hajj, on lui prend un mouton. Mmh. Donc ça se fait toujours. Donc le mouton, il est sacré. C'est pour ça que nous, en tant qu'association,
il est dans beaucoup de rituels,
on voudrait garder donc ce l'ovin, le mouton, pour les fêtes sacrées. Mmh. Pour nos fêtes, c'est des fêtes sacrées. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, le temps qu'on améliore la production. Aussi, on a ce problème, malheureusement, et je déplore, c'est qu'on fait de l'abattage de la brebis. En étant jeune. Ça, c'est tout le monde qui le sait. Notre ami vétérinaire, il va appuyer ça. Et ça devrait être interdit, puni, sanctionné. Oui. Il va y avoir de la répression sur ça. C'est un crime qu'on fait. Donc, on ne doit pas abattre et sacrifier la brebis. Donc, si on sacrifie la brebis, donc on diminue la production. Aussi, on a nos modes de reproduction. Parce que quand on parle d'intensif, ce n'est pas seulement dans l'aliment, mais c'est aussi comment reproduire. Nous avons fait des études comparative par rapport à ce qui se fait dans certains pays. Pourquoi dans certains pays, ils ont la suffisance, l'autosuffisance, ils font de l'export et le mouton n'est pas cher. Mmh. Parce qu'ils sont arrivés à ce qu'une brebis porte jusqu'à 3 agneaux. Et chez nous, mazal avec un seul agneau. Donc c'est pas normal. C'est pas normal parce que le temps d'avoir, donc le temps de reproduction, il est lent. Il est lent. Donc chaque brebis, on va attendre, on va avoir un agneau. Donc on peut aider par insémination artificielle ou je sais pas quoi. Donc en tout cas, les scientifiques les connaissent mieux que moi pour faire augmenter la reproduction. Et aussi, évidemment, donc sortir de ce mode de nomade traditionnel artisanal vers des modes où on fait de l'élevage professionnel. Avec des équipements, avec des professionnels, avec des vétérinaires qui suivent. Parce que vous savez, il y a les pertes aussi. Ouais. Donc quand on est sur les steppes, sur les steppes, on perd donc, par des maladies, par les attaques de d'autres animaux. Et c'est des pertes. Donc quand on est bien suivi, donc on va faire augmenter. Donc c'est ce que... En tout cas, ce qui nous a été promis... Donc,
en tout cas, il y a réflexion, on est en train de comprendre. Là, avec
ce qui nous a été promis, c'est qu'il va y avoir prise en charge de tout ça. Mais aussi, nous, en tant que consommateurs, quelque chose dont on avait trop parlé en 2022, on doit diversifier notre consommation de viande, aller vers les autres types de viande, consommer beaucoup plus d'ovin, et aussi le camelin, le lapin... pour diminuer la consommation de l'ovin, pour le laisser...
Et il est d'accord, le vétérinaire, M. Salim Kibbeb ?
Oui, tout à fait d'accord. Mmh. Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Mnour.
Oui.
Il vient de toucher un point sensible. Mmh. Il a mis en exergue l'aspect sociologique.
Oui.
Je disais tout à l'heure, vous savez, chez nous, souvent, quand on traite les problèmes, on met en exergue les causes d'ordre technique ou les problèmes d'ordre technique ou économique, mais on oublie souvent les données sociologiques
qui ont leur importance, je dirais, Céline.
Oui, ils ont leur importance. Mmh. Vous savez, l'Algérien, il est porté sur le mouton. Mmh. Vous savez, que ce soit lors d'un mariage, on offre à la nouvelle mariée ou la future mariée pour la 56 ans. Et même
il a dit mariage.
Oui, mariage. Et même d'ailleurs, lorsqu'on quitte ce monde-là.
Oui, bien, tout à fait. Même dans l'enterrement, ok.
Oui, même dans l'enterrement, le mouton. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a même des experts étrangers qui disaient il y a 20 ans de cela que le mouton est la future force économique de l'Algérie. Vous savez, on a le pétrole, les hydrocarbures, mais on a une autre source naturelle. Pour une fois, restons autour d'une table et on va voir qu'est-ce qu'on a en Algérie, qu'est-ce qu'on a. Vous savez, on n'a pas la génétique bovine, on est, c'est-à-dire il y a un déficit. en génétique bovin.
On n'a pas la meilleure, quoi.
Oui, oui, on n'a pas, on a des races, mais quand même, elles ne sont pas. Mais on a, c'est-à-dire, une force dans le mouton. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, l'Algérie, c'est le pays du mouton. Mmh. Et il y a Allah yarhamou, le professeur Rabih Chilig, dans son livre des années 1970, je crois, il a cité cette citation, l'Algérie bled l'gnem, que les gens ont, repris d'une façon péjorative. Mmh. Alors que je disais tout à l'heure, l'Australie, c'est pas pour faire règle, le slogan économique est de Australian Cheap Country, l'Australie, pays du mouton. D'accord. Ça devait être l'Algérie, pays du mouton. Et juste, si vous permettez, monsieur vient de parler d'un aspect technique, faire les transplantations embryonnaires, pour avoir plus de production. Mm-hmm. Là, il faut introduire les technologies, les introduire. Et surtout, on a un atout. Mm-hmm. On a un atout. Vous savez, on parle souvent des races. On connaît maintenant la race Ouled Djilal, on connaît la race Hamra. Mm-hmm. Mais on a une autre race.
C'est laquelle?
On a une autre race, c'est la race Dmen.
Elle est de quelle région?
Le sud.
Le sud. Le berceau, le sud. Mm-hmm. Le berceau de la race, c'est la vallée de l'Oued Sawra. L'Oued Sawra, du côté de Béchal. Mm-hmm. Le professeur Sagne, il y a Boutonnier qui en ont parlé durant les années 50.
D'accord, répertorier d'ailleurs tout ce travail. Hein, s'il y a un recensement qui se fait du cheptel, il faut essayer de... On fait une petite pause, si vous permettez.
La race Dmen, c'est la seule, une des rares races au monde qui peut donner en une seule mise bas jusqu'à 4 agneaux.
Okay.
Soit 8 agneaux par an.
D'accord.
Et là, 8 agneaux par an.
Vous apprenez quelque chose, monsieur Kekeba.
Oui, il y a eu, c'est-à-dire un projet, je sais pas, il a été abandonné au niveau de l'école nationale vétérinaire par deux professeurs et un doctorant qui voulaient faire des croisements, disons, au laboratoire, pas des croisements sauvages, pour, faire un croisement entre la race Ouled Djilal
et la race Dmen.
La race Dmen, c'est-à-dire le seul point, le point négatif, c'est la qualité de la viande qui est un peu dure, dure à la mastication.
D'accord.
Mais elle est en voie de disparition, malheureusement.
De disparition, mais elle est en train d'être valorisée et protégée au pays voisin.
Malheureusement.
Selon approprié.
Alors, dites-nous, restez avec nous, monsieur Salim Kibbeb, en tant que vétérinaire, parce que c'est vrai, ça passe trop vite en votre compagnie. Monsieur Hassan Nouar, il est 10h40, une petite pause, et puis après, on va donner des conseils pour ceux qui peuvent se permettre comment acheter un mouton en bonne santé et surtout comment faire pour après tout nettoyer. N'oubliez pas, c'est important.
قبل ما يطفى ويغيع السام وقبل ما يموت ناغوين يا موسى وقبل ما الرلم حبا ذلعه وقبل ما رزن ثاعك استوى مضى أوي ذا فسين أنرقيك السين وقبل غير صاقل وقبل ما نرز ولا ما لك نور أود أفسين أن أرقيك سين وقبل ما السرغ انثاجو جنت وقشيش ما الخير نثركاي وغنى ذلا حشيش قبل ما تحزن ميلا ولاوا وقبل ما ينفى وينير ولا نير وقبل الدغري ما حرحورا وادو وقبل ما بالبحار يكردو مالو أويدا فوسين أنا كيك سين وقبل ما فغسي ففاف وقبل ما تسمى ذي ثلك انت يا حمام
الزمن تاعك استوى المرا اريد فسيل اريد فسيل اريد فسيل انا ركيك سي وقبل ارصادني لا حلو وقبل ما نرز ولا ما نكنو اريد فسيل اريد فسيل اريد فسيل انا ركيك سي
Plus près de vous, c'est la vie au quotidien.
Besoin de comprendre, de savoir.
Plus près de vous.
C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier.
h 44 minutes, vous écoutez Alger Chantois plus près de vous. Nous sommes le mardi 11 juin. C'est le dernier numéro de la saison. Vous allez nous manquer, hein, Hakim, non ? Hakim, il est bien heureux de se débarrasser de BDA. En tout cas, on se retrouvera un nez écrinte. On est là sur les ondes d'Alger Chin 3 pour tout le programme de l'été. À partir de dimanche, enfin le 23, voilà, parce qu'il y a les trois jours de l'Aïd, il y aura un programme spécial Aïd. Donc moi, par exemple, je vous donne rendez-vous le deuxième jour de l'Aïd de 9h à midi. Je serai sur les ondes d'Alger Chin 3. Et à partir du 23, c'est la grille de l'été qui commencera avec quelques aménagements. Vous allez les découvrir. Et tout de suite, on continue avec nos deux invités pour parler de moutons, de l'Aïd. Est-ce que vous avez acheté le mouton ? Et comment vous allez le choisir ? C'est important, hein, monsieur Mnour.
Oui, c'est très important.
Et monsieur Salim Kibbeh, vous êtes avec nous, hein, par téléphone. Notre vétérinaire préféré, d'ailleurs.
Non, c'est très important parce que moi, je dis toujours à chaque année, à ce moment où on se prépare pour l'Aïd, il faudrait aussi commencer à se préparer pour l'Aïd prochain. Pas pour celui-là.
Oui. En parlant de budget ou en parlant de... Quand
non,
vous
non,
dites
je parle de tout. D'abord, il faut... toujours.
Oui,
on fait toujours les choses, c'est comme si on sera toujours en vie.
Nul n'est éternel.
Oui, absolument. Mais il va falloir qu'on mette l'Aïd comme un article de dépenses dans la gestion. Donc nos dépenses, notre budget, comme un article important. Vous savez, malheureusement en Algérie, on se prépare pour Ramadan, alors que ça ne sert à rien. Au contraire, Ramadan, on doit faire des économies. Mais malheureusement, nous, on prépare un budget pour Ramadan, pour le gaspillage.
Mais on ne prépare pas pour l'Aïd.
Mais on prépare pour l'Aïd. L'Aïd, sunna mu'akkada, on ne joue pas avec ça. Donc on est musulmans.
Ça revient tous les ans.
Ça revient tous les ans, depuis des millénaires, je pourrais dire.
Oui.
Et ça va rester jusqu'à la fin de ce monde. Mm. Donc on doit se préparer. D'abord, donc prendre en considération ce budget. Il faudrait se dire, d'après nos recettes, enfin nos revenus, qu'est-ce qu'on pourrait
dégager ?
Tous
les mois, on peut mettre de côté.
Qu'est-ce qu'on peut dégager tous les mois ? Donc, une petite enveloppe, on va mettre pour le montant de l'aide. Là, c'est donner de l'importance à ce geste ou à cette action religieuse. C'est lui donner son importance, même si on n'arrive pas. Si on n'arrive pas. À la fin, j'ai pu épargner 40 000 dinars, alors que les moutons sont à 100 000 dinars. Rabbi, il regarde que réellement j'ai essayé. Aussi, on doit se préparer par l'apprentissage. On doit apprendre à faire le sacrifice. On doit apprendre à acheter son mouton. En Algérie, maintenant, les Algériens, malheureusement, heureusement, je dirais, mais peut-être, ils savent bien acheter un véhicule, un smartphone, un téléviseur, mais ils ne savent pas encore acheter un mouton. Alors que le mouton, on l'achète chaque année et on doit même laisser
en
ça.
En général, on va avec le grand frère ou le grand-oncle qui nous aide à choisir.
Il est temps d'apprendre et d'apprendre à ses enfants. Moi, j'ai appris de mon
père. Avez pris votre garçon avec vous.
Absolument,
et
bien sûr. Mon garçon, il a commencé à faire le sacrifice à 18 ans. Je lui ai donné le couteau pour faire le sacrifice à 18 ans, pour dire qu'on doit donc transmettre ça aux générations futures.
Okay.
Ça, c'est très important. On doit s'équiper. On doit s'équiper.
Aiguiser le couteau.
Absolument. Le couteau, le petit mont de charge, tout le matériel.
Ouais.
Ceux qui sont en train de construire des villas et qui prévoient de faire des piscines et des hammams et des salles de sport doivent aussi prévoir cet endroit où on met donc le mouton dans un repos avant de le sacrifier, de l'égorger. Et aussi l'endroit où on doit faire ce sacrifice. Donc une surface lisse, carrelé avec un siphon
et ou un l'eau caniveau, à côté.
L'eau à côté, là oui. on doit suspendre parce que c'est quelque chose qui revient chaque année. Maintenant, dans les cités, c'est au pouvoir public. Donc
c'est de dédier des espaces, comme ça se fait ailleurs.
On construit des cités, on fait des équipements de proximité, on fait des parkings, on fait des parcs pour jeux, pour enfants, on fait tout. Mais on oublie que nous sommes une société musulmane qui fait des sacrifices chaque année. Donc, si les OPJ, ADL et autres n'ont pas fait, maintenant c'est maintenant, c'est aux habitants eux-mêmes de s'organiser. Commencer à s'organiser pour faire une clôture pour la cité, pour faire le gardiennage. On s'organise aussi ces trois derniers jours pour aller préparer un espace.
C'est très juste, bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à louer des chapiteaux pour organiser un événement. Oui. Donc, si on doit le faire, on le fait. Ça ne va pas coûter grand-chose. Et c'est un endroit où il va y avoir... C'est le moment aussi, c'est une occasion d'être tous ensemble.
Convivialité avec le voisinage, bien
inviter, sûr. Inviter la mairie, la PC, pour leur programmer qu'ils ramènent de l'eau s'il n'y a pas d'eau. Les programmer pour venir débarrasser donc, tout ce qui va rester de ce sacrifice. Prévoir même peut-être un imam qui va venir... Et apprendre aux gens comment faire le sacrifice dans le respect des règles religieuses, les vétérinaires de l'APC ou bien prendre le service d'un vétérinaire qui viendrait aussi être là.
Je pense que ça se fait, monsieur Salim Toubeb. Les vétérinaires font le terrain le jour de l'Aïd.
Oui, ils sont de permanence. D'ailleurs, on vient de recevoir...
À la commune de Dalaria, vous avez des permanences,
Tout à fait.
Ça commence à se faire depuis quelques années. Mais malheureusement, je le dis, mon ami va être d'accord, c'est qu'on a peu de vétérinaires en Algérie. Il faudrait quand même, et pourtant, on a parlé d'une
délibération de 600. Ça reste pas assez sur le territoire.
Ce qu'on a comme territoire, ce qu'on a comme producteur, si on voudrait développer la production, justement, des viandes, on doit aussi promouvoir ce métier. Et faire sortir plus de vétérinaires sur le terrain.
Dites-nous, monsieur Salim Kibeb, comment choisir un mouton en bonne santé?
Vous savez, la préparation de l'Aïd se fait avant, bien avant le l'Aïd. Choisir un bon mouton au niveau du marché, au niveau des marchés à bestiaux.
Il y en a qui l'achètent tout petit et juste quelques mois avant l'Aïd et ils s'en occupent. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est un peu dur pour les enfants parce qu'ils s'y attachent.
Oui, tout à fait. C'est un peu dur, ils s'y attachent. Mais choisir, c'est-à-dire voir, de loin, voir s'il n'a pas de lésions, s'il ne boite pas, l'état d'embonpoint, on appelle ça, nous, l'état d'embonpoint.
Est-ce qu'il doit être bien portant comme ça, à vue d'œil, on voit qu'il est bien gros.
À vue d'œil, on peut voir à vue d'œil, mais on ne sait pas ce qu'il y a. Après l'abattage, il y a des lésions qui apparaissent après en post-mortem. Il y a la visite. D'ailleurs, même au niveau des abattoirs, ce qu'on fait, l'inspection antémortem avant l'abattage et l'inspection post-mortem. L'inspection antémortem, elle est très importante parce que ça permet de voir est-ce qu'il y a des nodules sous-maxillaires, est-ce qu'il y a des abcès. On voit souvent maintenant au niveau des marchés des moutons avec des abcès et tout ça. Ça peut être passager.
Bon,
il y a sur le plan religieux, de préférence voir un imam. Nous, on ne peut pas se prononcer. Nous, c'est beaucoup plus l'aspect, sanitaire.
Alors, l'aspect sanitaire, on doit regarder. Bon, qu'on en a fait une émission sur le kystidatique. Donc, le foie doit être sain, les abats doivent être sains, c'est tout ça.
Oui, tout à fait. L'inspection le jour de l'Aïd, l'inspection vous savez, on a l'inspection surtout des organes nobles, comme en commençant par le foie, vous savez, très cher au niveau des boucheries.
Il fait 4 500 dinars le kilo, malheureusement.
C'est un organe noble. Mais on peut, avant l'abattage, il y a certains... Bon, ça, c'est les vétérinaires. Pourquoi ? De préférence, avoir... D'ailleurs, M. Mnawar, il disait on devait avoir plus de vétérinaires au niveau des marchés à bestiaux et tout ça. Vous savez, il y a certaines lésions qui peuvent apparaître du vivant de l'animal. Par exemple, au niveau du foie, au niveau des bronchopneumopathies, on peut les détecter. Et là, après l'abattage, on aura soit un poumon qui n'est plus comestible, un foie qui est plein de foyers, c'est-à-dire purulents.
Après le sacrifice, il est 10h52, ça passe très vite, il faut que vous nous donniez des conseils. Après le sacrifice, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, en tant que vétérinaire, qui est très important, monsieur Salim Kebab?
Bon, vous savez, l'aspect, moi, je vais parler de l'aspect de l'hygiène. L'hygiène, il faut qu'il y ait de l'hygiène avant le sacrifice, pendant le sacrifice, et après, surtout après le sacrifice. Bon, je vais pas parler de du moment du sacrifice avec la désinfection, le nettoyage et la désinfection de tout le matériel.
Avec de l'alcool ou de l'eau de Javel?
Non, avec de l'eau javelisée.
De l'eau javelisée, d'accord. Oui, c'est important.
Il faut aussi nettoyer l'endroit prévu ou réservé pour le rituel.
Le sacrifice, tout à fait. Et est-ce que après le mettre sur une toile série ou le laisser comme ça par terre avant de l'accrocher?
Il faut directement l'accrocher. Il faut éviter d'aller directement vers le boucher et procéder à la découpe. Mmh. Il faut, parce que après la saignée, il y a tout un phénomène, tous des processus, disons, biochimiques et enzymatiques qui permettent le passage de la carcasse de l'état muscle vers l'état viande.
C'est l'assèchement.
Il faut respecter. Oui, tout à fait, l'assèchement.
Il faut respecter, on va dire, 24 heures, c'est ça?
Minimum 12 heures.
12 heures, ok.
Non, 12 heures. Ouais. Le laisser dans un endroit, c'est-à-dire bien aéré.
Et le couvrir avec un tissu, un drap blanc propre, voilà.
Pour propre et tout ça. Et le fin de soirée, début de soirée, l'amener vers le boucher. Maintenant, il y a beaucoup de nos concitoyens qui font l'abattage des grands animaux.
Oui.
Des grands animaux, les veaux en particulier. Sans oublier nos concitoyens d'ici, d'Adara, la Tindouf, ils font même le camelin.
Oui.
Le camelin, il faut le laisser jusqu'à 48 heures.
Oui.
Mais il faudrait disposer des moyens de réfrigération, parce qu'il faut... Vous savez, au niveau des abattoirs, on fait ce qu'on appelle les cantines, la cantine.
Oui.
On met la carcasse, il faut la fendre en deux, il faut d'abord fendre la carcasse en deux et la mettre, parce que plus ça tape, plus la viande va être plus mature et plus bonne.
D'accord. Un dernier mot, et on facilite la vie à Srout, à Netcom, à Extranet, c'est de mettre, ça serait le mot de fin de notre deuxième invité. Merci à vous, monsieur Salim Koubeb, vous êtes, je rappelle, vétérinaire au niveau de la commune de Dalalea, c'est toujours un plaisir, c'est pas assez, vous avez vu, une heure passe très vite, hein.
Oui, merci. Je ne sais pas si je pourrais dire ça.
Si, allez-y, quand même, on va pas.
Monsieur Mnawar et à tous les Algériens. Il faut juste, c'est-à-dire laisser l'endroit propre, et parce qu'il y a des gens, qui vont venir, les gens d'Extranet, d'Asrout, qui vont, c'est-à-dire, c'est pénible, vraiment. Je les ai vus le jour de l'Aïd. C'est pénible. Qu'est-ce qu'on blâme? Il faut penser. Sinon, Amin Sadaqa, moi je ne suis pas un imam, mais je dirais que c'est une sorte de Sadaqa. Ça ne sert à rien de donner c'est-à-dire de la viande aux démunis et de rendre la vie pénible aux gens qui nous font du bien.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, ça serait votre mot de fin. Merci beaucoup, Salim Kibab. Il est 10h56. Quels sont vos conseils à vous, Association des consommateurs, M. Hassam Nouar?
D'abord, il faudrait respecter aussi cet animal qu'on va sacrifier. Il faudrait le mettre dans des conditions convenables. Mmh. Parce que, je dirais même, la qualité de la viande va dépendre aussi de ce stress ou non-stress de ce
bien
mouton.
Bien sûr, ils ressentent tout.
Ça, c'est très
important.
C'est pas un objet à donner aux enfants pour jouer. C'est pas quelque chose avec laquelle on va se montrer aux voisins, etc. et faire ce mal.
Mais
c'est religieux, n'oublions pas.
Ouais.
Maintenant, c'est pour l'hygiène. Moi, je dirais même, c'est économique. Vous savez que si on sacrifie 4 millions de moutons, c'est 4 millions de peaux. Et la peau, elle doit coûter dans les 1000 dinars à peu près, comme une valeur, je dirais, financière. Et si on fait le calcul, c'est à peu près 40 milliards de dinars. Donc, c'est un grand montant. Donc, ce n'est pas la peine de convertir en dollars pour savoir que c'est une opération économique très importante.
Fait.
Nous, en tant qu'association MM, donc on avait recommandé depuis longtemps qu'il y ait même une direction au niveau du ministère de l'Agriculture, une direction dédiée au moutons de l'Aïd. D'abord pour le préparer, faire la programmation,
et puis
faire
la récupération
aussi,
des peaux de moutons.
Voilà, gérer tout ce volet économique. J'espère que cette année, toutes les peaux seront récupérées par les opérateurs.
Écoutez, hier, G. Sétal, qui était là, une épique, la ULAID Alger, a elle va récupérer tous
oui,
les
pots de dire, permettez-moi de dire qu'ils n'ont pas encore les moyens pour récupérer ce nombre de...
Oui, j'imagine, surtout
nous, les citoyens, on doit jouer le jeu. Ouais. On doit aussi, comme l'a dit notre ami vétérinaire, être civilisé, avoir cet esprit de citoyenneté et participer donc à la promotion de notre économie et à la préservation de notre santé d'abord et l'environnement. Parce que vous savez, une peau qui est jetée dans le jardin, dans le parking, c'est l'équivalent d'une bête morte et qui se décompose. C'est un chien qui se décompose devant nous. Est-ce qu'on peut se permettre ça? Non. Il fait chaud, il va faire chaud. C'est la ride, on est propre, on est censé être parfumé. Alors comment se permettre d'avoir ces saletés et ces microbes devant chez nous? Donc soyons citoyens, faisons ce qu'il faut. Donc achetez du sel, préparez-vous.
Le gros sel, mettez-le dans un sachet.
Il faut mettre le sel et à la fin de toute l'opération, quand on nettoie tout, on ramasse tout ça dans un sac adapté et on le fait sortir là où il faut. Si on n'a pas à côté la benne, on la transporte dans notre voiture. Soyons citoyens dans notre voiture et allez chercher où la mettre. Comme on a été chercher le mouton, on doit aussi chercher ou se débarrasser de cette peau pour qu'on devienne réellement de bons musulmans.
Et de laver à grand tour tous ces espaces.
Dans l'islam, il faudrait être propre. Donc soyons propres.
C'est important, penser à votre voisinage. Merci à vous, M. Hassan Nour. En tout cas, merci à vous, chers auditeurs et auditrices. L'émission est terminée donc, pour la saison 2024. Je crois aux vertus de l'optimisme. Ce n'est pas facile, mais ça ne sert à rien d'être pessimiste. Mieux vaut croire que les choses vont aller mieux et peuvent changer. Voilà, Yemen Aish. Merci à vous, Hakim Ben Moussa, Adnan, qui était à la technique, et puis Nusrin, qui est à la régie d'antenne. Ben, je vous donne rendez-vous sur les ondes d'Alger Chaîne 3, déjà le deuxième jour de l'Aïd. Je vous dirai en direct, ça, Aïd, comme. Yamna Hesh, au revoir.